Avec toute ma simplicité, je crois que la dite armada comptait beaucoup de têtes, mais aucune pour la commander. Extrait d'un rapport de Kulven Uller, ambassadeur du Saint-Empire à Madrid.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au milieu des années 1580, la couronne d'Espagne est une puissance impressionnante. En effet, elle possède, outre l'Espagne, mais des possessions en Italie, le Grand-Duché de Milan, le Royaume de Naples, la Sicile. Elle est également maître des Pays-Bas, des Flandres, même si, depuis une bonne quinzaine d'années, les Hollandais se sont soulevés contre la domination espagnole. Elle est aussi présente en Franche-Comté. D'autre part, depuis 1581, le roi d'Espagne, en l'occurrence Philippe II, est également roi du Portugal. Ce qui fait que les empires espagnols et portugais en Amérique latine sont unis sous la même couronne. Puissance impressionnante au moment où l'Espagne est dans son siècle d'or, selon la formule que l'histoire a consacrée. Mais il faut bien avouer que cette toute-puissance est contestée. Elle est contestée au sein même de l'Empire espagnol par la révolte des Pays-Bas, mais également par le fait que la France, même si elle est extrêmement affaiblie par les guerres de religion, est une puissance qu'il faut essayer, vu de Madrid, de maîtriser au mieux. Et le roi d'Espagne peut compter en France sur quelques appuis, comme en particulier les Guises. Mais beaucoup plus dangereux, désormais, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a réussi, finalement, sous le règne d'Élisabeth Ière, Élisabeth la Grande, à devenir une véritable puissance maritime, et les corsaires anglais, en particulier le fameux Francis Drake, ne cessent de harceler les flottes espagnoles qui traversent l'Atlantique, et régulièrement des galions tombent aux mains des Anglais, et des galions souvent remplis de richesses. À la tête de cet immense empire espagnol se trouve donc Philippe II. Nous avons une description de celui-ci par un ambassadeur wallon, Philippe de Claverel, qui dresse le portrait suivant en 1582. Sa taille est plus petite que la moyenne. Il a les yeux rougis, comme celui d'un homme qui lit et travaille beaucoup, même la nuit. Sa barbe et ses cheveux sont entièrement blancs, ce qui semble un peu prématuré. Nous avons donc là un monarque puissant, mais un monarque qui commence à vieillir, car il a 58 ans en 1585. Et finalement, c'est aussi un homme qui commence à être atteint par divers problèmes physiques. Mais c'est tout de même un homme qui, effectivement, a une conscience de son métier de roi, comme dira plus tard Louis XIV. Et il est très conscient, en tout cas, que l'Angleterre est une concurrente redoutable. Aussi, dès le milieu des années 1580, on envisage à l'Escorial, dans ce palais monastère où vit Philippe II, d'organiser des expéditions qui pourraient amener à une invasion de l'Angleterre. À vrai dire, effectivement, des plans successifs sont proposés aux souverains. En fait, deux semblent primer. Le premier serait de partir de Lisbonne et d'envahir l'Angleterre par une grande flotte qui débarquerait du côté de Douvres. C'est l'idée du marquis de Santa Cruz, capitaine général de la mer Océane. Mais un second plan est également organisé par Alexandre Farnèse, duc de Parme, et qui est gouverneur général des Pays-Bas depuis 1578. Or, effectivement, pour lui, il faut faire plus simple et plus court en matière de distance. Il faut faire franchir la Manche sur des barges tirées par l'armée des Flandres et qui regrouperaient environ 30 000 hommes, et les faire débarquer entre Margate et Douvres. Cela éviterait peut-être d'être repéré si l'expédition de Lisbonne voit le jour. En fait, le roi d'Angleterre le roi d'Espagne ne va pas choisir véritablement entre les deux plans. Et il va opter pour un mixte entre le plan de Santa Cruz et celui d'Alexandre Farnèse. Il opte donc pour une synthèse. Une flotte partira bien de Lisbonne, mènera une diversion vers l'Écosse ou l'Irlande pour attirer une partie des troupes anglaises, puis rejoindra la flottille rassemblée par le duc de Parme et débarquera en Angleterre. Le défi logistique, mais également financier, est immense. En effet, il faut construire de très nombreux navires et il faut de l'argent pour les armer et pour payer une expédition conséquente. C'est pour cela d'ailleurs que la couronne d'Espagne espère le soutien d'autres monarques catholiques, et en particulier on écrit au pape, on écrit au grand-duc de Toscane pour leur demander de participer au budget de l'expédition que la couronne d'Espagne propose de couvrir, en ce qui la concerne, environ à un tiers. Les plans d'invasion espagnole ne sont pas un secret absolu, loin de là. En effet, les bruits courent depuis déjà quelque temps que l'Espagne ne pourra pas tolérer éternellement que les navires anglais viennent finalement sur son terrain privilégié, sur cet océan Atlantique qui est un cordon maritime entre la péninsule et l'Empire. Donc, à Londres, on imagine bien que l'Espagne finira bien par réagir. D'autre part, des espions et des repérages maritimes montrent bien que dans les arsenaux espagnols et portugais, on travaille à construire une véritable flotte. Au final, au printemps 1588, une flotte réunit 130 navires, dont 97 de lourd tonnage. Lourd tonnage, ça veut dire des grands galions qui sont capables d'apporter jusque vers les côtes anglaises environ 18 000 soldats. Il faut ajouter 8 000 hommes d'équipage ainsi que des galériens. Et côté des Flandres, il y a environ 25 000 hommes qui attendront pour participer au débarquement. Côté anglais, on s'est également préparé. 191 navires, qui sont certes de taille inférieure par rapport aux navires espagnols. Ils sont commandés par Lord Howard, secondés par l'amiral John Hawkins et Francis Drake, le corsaire que j'évoquais tout à l'heure. Côté espagnol, le commandement est finalement confié à Alonso Pérez de Guzmán, duc de Medina Sidonia, mais à vrai dire, il est presque choisi par défaut parce que, à l'origine, c'était Álvaro de Rensa qui devait commander la flotte espagnole. Sauf qu'il décède à peu près un mois avant le départ de la flotte, et donc le roi Philippe a choisi le duc de Medina Sidonia pour commander. Mais il faut bien dire que des amiraux auraient souhaité sans doute commander la flotte espagnole et qu'il n'y a pas un accord total au sein des conseillers du roi d'Espagne. En plus, l'expédition fait craindre tout de même la hardiesse, car les grands débarquements, c'est une chose complexe. Mais le roi est finalement plutôt confiant. Il ne cesse de s'en remettre à la providence divine et répète souvent à ses conseillers « Dieu y pourvoira ». Le 27 mai 1588, la grande flotte de l'invincible Armada, puisque elle fut surnommée ainsi, en partie par dérision d'ailleurs de la part des Anglais, quitte Lisbonne. On va vite s'apercevoir si Dieu est espagnol.
Thank you.
C'est en plein milieu de l'été 1588 que l'invincible Armada arrive en masse à l'entrée de la Manche. Elle se dirige vers le détroit du Pas-de-Calais pour essayer de faire jonction avec la flotte espagnole des Pays-Bas. Déjà, en arrivant à l'entrée de la Manche, elle doit faire face à des coups de vent qui endommagent quelques navires. Mais jusque-là, rien de véritablement trop grave. Par contre, le 8 août 1588, la bataille de Gravelines est plus difficile. Ce n'est pas une victoire écrasante pour les Anglais, mais ils montrent leur dextérité sur la mer. Les Espagnols perdent plusieurs navires, ce qui fait qu'ils comprennent, et en particulier Médi la Sidonia, que le débarquement sera extrêmement complexe. Il faut donc rentrer vers l'Espagne. Le chemin choisi n'est pas le plus simple. En effet, il va falloir contourner les îles britanniques, mais par le nord. Donc on remonte la mer du Nord, on passe au nord de l'Écosse, on descend vers l'Irlande, mais le problème c'est que la mer se déchaîne et 33 bateaux espagnols sont détruits au large de l'Écosse et de l'Irlande. Certains échouent sur les côtes irlandaises. D'ailleurs, plusieurs centaines d'Espagnols seront soit tués, soit d'autres pourront s'installer finalement sur les îles britanniques où ils fonderont famille au demeurant. Ce qui est net, c'est que véritablement, l'invincible Armada n'est pas parvenue à envisager un débarquement. À l'issue de cette expédition ratée, le roi d'Espagne estime que Dieu n'était pas en faveur de cette expédition. Et il prend cela avec une certaine philosophie. Par contre, côté anglais, c'est évidemment un triomphe, au point que la reine Isabelle va même être présentée comme une seconde Vierge Marie, c'est-à-dire une reine vierge, comme le fut la mère du Christ. On voit en cette circonstance que politique, propagande et religion peuvent effectivement cohabiter.